Vous n'avez pas le même grenier à images, comme on dit. Vos références ne sont pas les mêmes.
C'est-à-dire, quand vous racontiez l'histoire de la petite souris, là, tout à l'heure, moi, je la voyais. Je la voyais évoluer ici ou là. C'est comme un film.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et les mots sont vraiment le bout de la chaîne. C'est-à-dire que dans la technique du conteur, les mots arrivent au bout. C'est-à-dire qu'on fait des images, on fait un cinéma intérieur. Quand le cinéma intérieur commence à bien se dérouler, on commence à mettre des mots. Mais tant qu'il n'est pas en train de se passer correctement, on n'est pas encore dans les mots. Je dis toujours, les stagiaires, j'explique toujours que Michel Hunor, que vous verrez d'ailleurs vendredi ici, quand il fait travailler des conteurs, il leur demande toujours de marmonner l'histoire. Si vous avez raconté « Nuage d'avril », c'est et tant qu'il ne comprend pas qu'est-ce que vous êtes en train de marmonner, vous dites vous n'êtes pas prêt à mettre des mots. Allez, boss, les images ne sont pas assez claires. Et ce n'est pas du mime, c'est vraiment un lieu de pouvoir expliquer avec un minima, déjà exprimer, on va dire, une structure du récit avec un minima de choses. Alors qu'on pense toujours que les conteurs, c'est quelqu'un qui manipule les mots d'abord. Alors déjà, il part d'une histoire qui n'existe pas en tant qu'histoire, c'est-à-dire que c'est qu'une structure sur laquelle il va créer un imaginaire et qu'il va porter. Après, avec sa langue, mais avec ses images surtout. Donc c'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. C'est-à-dire que le conteur n'est pas le raconteur. Vous voyez ce que je veux dire? Le raconteur, c'est quelqu'un qui prend le récit, qui va l'apprendre par cœur, et puis par cœur, ou du moins très proche de ce qui est dit, avec les mots, les images déjà données. Il va prendre, c'est pas ses images qu'il va donner, c'est celles d'un auteur. Alors, le conteur, c'est ses images, c'est ce qu'il arrive. C'est son rêve à lui de cette histoire qu'il va vous donner. C'est pas ce qui est écrit. Donc, c'est un auteur aussi. Un compositeur, on va dire, parce que le mot auteur emmène aussi au mot, à l'écriture. Plutôt un compositeur, il crée une partition.
Bon, j'en profite. Alors, je ne sais pas si j'étais dans mon film ou... Mais vous avez annoncé cette catégorie, les mythes masqués, l'histoire de la souris, en expliquant que c'était différent du merveilleux, mais que ça s'en rapprochait. Et alors, je ne sais pas si j'étais encore dans les... Mais je n'ai pas bien saisi en quoi ça se rapprochait et en quoi ça m'écartait.
Mais c'est-à-dire que le merveilleux s'adresse vraiment à l'intériorité de l'humain. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'individu. C'est-à-dire qu'on l'a vu la dernière fois, c'est vraiment quelque chose qui nous donne des mises au travail psychique, en gros, merveilleux. Alors que là, on est vraiment sur la transmission de codes mythiques. C'est-à-dire que là, si je pouvais le décrypter, si on avait le temps, on fera peut-être quand on travaillera sur les Amérindiens l'an prochain, tout est codé. C'est-à-dire que chaque élément est un élément des codes mythiques, c'est les codes Apache, plus précisément. C'est-à-dire que c'est vraiment le parcours initiatique qui est donné. Mais initiatique au sens social du terme, mais pas au sens psychique du terme. Donc c'est pour ça qu'ils sont quand même assez différents. Il y a une codification qui est vraiment à respecter, on ne peut pas changer les éléments. C'est-à-dire que là, on ne peut pas mettre, par exemple, un chat à la place de la souris, on ne peut pas mettre, une grenouille à la place du crapaud, parce que le crapaud, c'est tout à fait autre chose. C'est autant de tous les éléments qui sont posés là. On ne peut pas inverser le désert avec la neige, on ne peut pas enlever le... Parce que tout est codé, et tout est un lieu de commencer à apprendre les codes de transmission de la société. Voilà, donc ça nécessite en même temps un décryptage très précis quand on veut raconter ces histoires.
C'est raconter une société qui les connaît.
Tout à fait. Alors c'est la version qu'on raconte aux enfants de 5 ans. Parce qu'après, ça peut durer plus de deux nuits, la version complète. Au fur et à mesure, on va compléter l'histoire, on va mettre d'autres étapes, on va mettre d'autres... Donc on va donner d'autres codes.
Il y a toujours un ancrage...
Voilà, l'ancrage est complètement codé, c'est vraiment codifié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de...
Donc c'est ça la différence avec le code merveilleux.
C'est pour ça que je le mets souvent dans cette catégorie, parce qu'il est plus proche de la volonté de créer du social que de créer du psychique. On est dans autre chose. Même si, bien sûr, il y a un parcours initiatique. Voilà. Mais qui finit plus ou moins bien pour la petite souris. Parce que... voilà. C'est une transformation, c'est une métamorphose qui est vraiment l'aboutissement d'un cycle pour les Apaches. C'est-à-dire que les guerriers Apaches, en fin de compte, ils se retransforment en énergie, ils redeviennent une part du soleil, par l'intermédiaire de l'aigle. Donc il y a toute une croyance derrière aussi, il y a tout un aspect religieux, très codifié.
Et
en même temps, il y a l'histoire des yeux qu'on a retrouvé chez Cactus Arcas.
Et qu'on va retrouver aussi, ça c'est par contre ce qu'on appelle un motif, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans la culture internationale, c'est un motif archétypal.
Il y a des choses très transversales, et puis
pour bien voir dedans, il faut ne plus voir dehors. De toute façon, tous les grands conteurs sont souvent dits et symboliquement comme aveugles. C'est-à-dire pour bien voir ce qu'il y a dedans, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, ça parasite trop. Donc c'est un lieu du retrait, c'est un lieu de la mise à l'écart. Et dans la plupart des modes mythologiques aussi, ou dans les grands prêtres, on va dire, les grandes traditions, souvent il y a cette nécessité de se mettre à l'écart, de travailler la nuit, ou d'être dans des... pour pouvoir changer le monde. Donc symboliquement, oui, il y a plein de choses. Si vous regardez bien, même il y a deux éléments où la mort est présente, c'est deux éléments stériles, le désert et la neige. On est toujours dans des échos très très... c'est très codé, le loup, le bison, quoi, qui sont un, la nourriture, l'autre, le prédateur nécessaire. Il y a vraiment... on est capable de donner un œil à chacun. C'est pas rien. Tout ça, c'est vraiment du sens qui se fait quand on connaît après l'histoire et les grandes façons de penser de ces peuples-là, on comprend mieux l'histoire. Alors que pour le conte merveilleux, même si c'est riche aussi, même si c'est très proche d'éléments mythiques, c'est pas donné comme tel. C'est plus un lieu de l'appropriation psychique intérieure des grandes codes, mais c'est pas donné comme une distribution organisée des codes sociaux. Alors que là, c'est vraiment le cas. Voilà, donc pour ceux qui sont là depuis quelques temps, on s'aperçoit en tous les cas que cette matière-là, c'est loin d'être uniquement un lieu de distraction, même si bien sûr, je ne le dis pas parce que ça me paraît tout à fait normal, la première fonction de tous ces contes, c'est de se faire plaisir, c'est d'écouter des belles histoires, c'est d'être dans le plaisir d'être là, mais derrière, c'est surtout une façon, pour une société qui n'a pas d'écriture, d'organiser l'espace communautaire, autant au niveau psychique qu'au niveau religieux, qu'au niveau... social, qu'au niveau des normes et des valeurs. On a tous les mêmes besoins à terme. Voilà. Nous, on passe par l'écrit, on passe par des dépôts de documents, et puis il y a des sociétés qui ont opté pour garder des grands textes fondateurs qui se transmettent, qui sont aussi des lieux d'organisation, et d'organisation de la pensée, du système de pensée.
Justement, à propos de ça,
Je
voulais découvrir les choses, par exemple. Où je suis installée depuis peu, et on dit que les Cévenols sont des oraux.
Des
oraux, des gens qui sont oraux.
Oraux,
oraux.
Dans toute société, je crois qu'il y a la part orale et la part écrite.
Ouais. Alors je me demandais si dans les contes, parce que là vous nous racontez un conte amérindien, par exemple, s'il existe des contes Cévenols, des Cévenols.
Alors, déjà, on ne peut plus parler de ça. Je vous ramène à ce type de contes qui n'existent plus chez nous, c'est ce que je vous disais au début. Hein, parce que ça, c'est des contes mythologiques, donc il faut qu'il y ait encore un mot savant, comment je peux le remplacer, efficience. Il faut qu'il y ait une efficacité du mythe. Il faut que le mythe soit encore acteur dans la société pour qu'il soit porté, ces récits. Hein. Alors que nous, en Cévennes, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est quand même dans un milieu où la chrétienté, déjà, a posé son veto depuis longtemps. Et on s'aperçoit même que, par exemple, chez les protestants, le conte merveilleux n'existe pour ainsi dire pas. Il est systématiquement réhabillé par le biblique. C'est-à-dire qu'on retrouve des structures de forme de conte merveilleux, mais où on retrouve tous les personnages de la Bible. Donc ça aussi, on se retrouve là avec quelque chose de très spécifique à notre monde, où les mythes ne sont des lieux de la pensée intellectuelle, mais ne sont plus des lieux de croyance. Alors que dans la plupart des sociétés, c'est encore des espaces de croyance, le mythe. C'est plus proche de ce que nous appellerait le religieux. Voilà. Donc déjà, chez nous, le mythe, on ne le trouvera plus. Ça, c'est clair. Le merveilleux, qui a pu servir à un moment donné à porter le mythe, il est devenu très psychique. Là où aujourd'hui on le place, c'est plus l'endroit traditionnel. Nous, depuis la psychanalyse, on est vraiment rentré dans quelque chose de psychique. Voilà. Et tous ces contes-là sont devenus des espaces de distraction. Mais la société est tellement devenue individualiste, on va dire, que quelque part, ces contes-là nourrissent plutôt l'intérieur que la société. Le groupe n'est pas référent là-dessus aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont tendance à se perdre. Hein. Ce qui se dit le plus aujourd'hui, c'est les contes facétieux. parce que ça, de rire, on en a toujours besoin. Hein, et puis que, quelque part, mine de rien, ils sont bien marqueurs, encore, de points de limite, comme ça. Et puis les contes de sagesse, parce qu'ils nous travaillent sur notre questionnement autant personnel que communautaire. Mais c'est les deux qui peuvent encore fonctionner aujourd'hui. Les autres, ils étaient vraiment faits pour la communauté. Quoi. Et ils se perdent petit à petit. Hein. On est en train de les perdre, on voit qu'ils disparaissent. Donc on est aussi dans des sociétés qui bougent, hein, donc on ne peut plus garder les mêmes cadres.
Les contes de mille et une nuits, alors.
Oui, alors les contes de mille et une nuits, il y a un peu tout ça en même temps. Parce que les contes de mille et une nuits, c'est à un moment donné qu'il y a un génie qui a trouvé Sherazade comme étant un conte cadre, avec cette femme qui pousse pour se sauver et sauver les autres femmes, va tous les soirs raconter l'histoire qu'elle finit pas. Hein. Mais en même temps, dans toutes les histoires qu'elle raconte, il y a à la fois des histoires qui étaient écrites, qui sont plus proches du roman que des contes. Il y a des contes traditionnels, il y a des contes de sagesse, des contes merveilleux, il y a tout dedans. Enfin, le conte, elle fait un tissage, on va dire, avec tout un répertoire moyen-oriental, persan, qui est un répertoire magnifique. Hein. Et du coup, on a une foule de styles. Hein. Mais quand on regarde bien, c'est pas tissé n'importe comment non plus. Il y a des cohérences qui sont très intéressantes.
Oui, quelquefois, on dirait que ça suit.
Oui, c'est fait pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des contes qui ne sont pas organisés n'importe comment. Il y a des résonances, il y a des étapes, et puis il y a des contes dans les contes. Hein, donc c'est très compliqué, les mille et une nuits, mais c'est passionnant. Il y a des gens qui consacrent des vies entières aux mille et une nuits, parce que c'est un répertoire en tant que tel qui est énorme. Hein. Par contre, il y a une tradition des récits des mille et une nuits qui ne sont pas organisés comme ça, qu'on retrouve au Maghreb.
Oui, c'est des soirées diverses.
Voilà, des soirées, mais où les contes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on sent que c'est des contes qui sont peut-être plus fortement ancrés dans la tradition orale. Il vient d'être réédité d'ailleurs chez Corti, les références de ces contes-là. Je ne l'ai pas pris, c'est dommage, mais ce n'est pas l'objet du jour. Mais en tous les cas, c'est intéressant parce qu'on retrouve tous les contes de mille et une nuits, mais pas encore dans la plume littéraire.
Donc on peut les trouver pour une collection.
Ah oui, bien sûr, il y a des quantités de traductions, hein. Il y a plein. Et que nous, au centre, je pense qu'on doit en avoir au moins 6-7 traductions. Donc, en plus, c'est bien de voir plusieurs traductions, parce que aussi, qui a traduit et qui a traduit n'a pas travaillé de la même façon. Donc ça aussi, c'est tout un monde, les mille et une nuits, hein. C'est un espace où les faire.
Quand vous dites traduction, c'est dans différentes langues.
Donc, français. C'est-à-dire que si vous prenez les textes de Galland, par exemple, donc qui sont vraiment les premières versions qu'on a eues en France, hein, c'était juste après Perrault, hein, en gros, ben Galland, il est dans une époque où, par exemple, tout l'érotisme oriental est très mal admis dans la société. Donc lui, il va supprimer tous les espaces érotiques, voilà, dans ses traductions. Par contre, vous prenez à côté Mardrus, qui arrive, lui, plutôt au milieu du 20e, où là, par contre, il y a toute une volonté de l'érotisme, de l'ouverture sexuelle, alors lui, par contre, il va en rajouter. Vous voyez, si vous prenez Burton, par exemple, qui est côté anglais, lui, il va avoir une touche encore très particulière. Voilà, donc chaque traducteur part souvent de l'arabe pour retraduire, mais, ou du persan, même, parfois. Mais en tous les cas, chacun a sa façon de redire les choses. Hein. Donc ça veut dire que quand on connaît bien les traductions, c'est une richesse aussi. On redécouvre des récits qu'on n'avait pas du tout envisagés. Voilà, puis c'est des récits qui sont aussi très riches au-delà du récit lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des médecins homéopathes, par exemple, qui sont venus travailler sur les poétiques qui sont à la fin des mille et une nuits, et qui sont en réalité des recettes homéopathiques. Mais il faut savoir les lire. Hein, et il n'y a qu'une version où on peut encore arriver à les lire, c'est celle de Burton, qui est un traducteur anglais. Parce que lui, il a respecté complètement l'écriture persane. Hein. Voilà. Mais sinon, dans les autres versions, ça a tellement été poétisé avec les mots du français qu'on ne comprend plus rien. Alors, de temps en temps, on voit des homéopathes qui passent, on dit, bon, cette version, parce qu'on a la chance de la voir, elle est assez rare.
Et ces livres-là dont vous parlez, on peut venir les consulter à votre centre?
Bien sûr, oui. Le fonds n'est pas... On ne prête pas les bouquins, parce que c'est un lieu de... C'est une bibliothèque de travail. Hein, voilà. Mais par contre, c'est tout à fait possible de venir consulter sur place. Hein, on est ouvert. Il faut passer juste un coup de fil avant. Parce que des fois, dans la salle de bibliothèque, il y a des formations. Simplement vérifier que ce soit accessible à ce moment-là. Sinon, c'est en général les heures d'ouverture, c'est 9h midi, 14h18, vous pouvez passer quand vous voulez. C'est Fabien qui est là, qui se fait un plaisir de se
connaître.
C'est déjà vu.
D'autres questions ? On a dérivé sur les mille et une nuits, mais c'est important aussi, hein, c'est un autre. C'est des grands cycles comme ça après, hein, d'autres types d'organisation. Bon, ben n'hésitez pas. Merci à vous. Donc, le prochain spectacle ici, c'est les Renardises, donc c'est toutes les contes d'Anne. Les Renardises, c'est Michel Denon qui a monté à partir du roman de Renard, mais surtout à partir de versions beaucoup plus anciennes, et beaucoup plus aussi des versions qui ont été tirées du roman de Renard dans la tradition populaire. Et donc il a remonté un spectacle qui est vraiment assez, assez passionnant. Donc c'est vendredi soir.
Je ne savais pas vraiment ce que c'est. C'est...
Messieurs, mesdames, bonsoir. Alors, la consigne habituelle qu'on doit systématiquement...